crois qu'il faut pouvoir et savoir.
Je demande à ma mère d'ailleurs de me tuer.
À chaque matin.
Parce que j'ai peur, je suis terrorisée. Je me demande jusqu'où va aller cette paralysie. Quand le cauchemar va se terminer, je me pose même la question, c'est vraiment réel tout ce qui se passe?
Alors qu'elle n'a que 29 ans et qu'elle est une jeune maman en pleine forme, la vie de Violaine bascule. Du jour au lendemain, son système immunitaire se met à attaquer son système nerveux périphérique. Tout son corps se paralyse. Violaine devient littéralement enfermée dans son corps. Celle qui ose est allée à la rencontre de Violaine, et cela n'a pas été difficile puisque nous avons la chance de l'avoir comme illustratrice de notre média cellequiose.com. Et oui, tous les jolis dessins que vous voyez sur notre site et notre compte Instagram sont dessinés par Violaine. Je vous propose tout de suite d'ouvrir grand vos oreilles pour écouter l'histoire atypique de Violaine et découvrir comment elle s'en est sortie. Et pour aller plus loin, je vous recommande son livre « Patiente » aux éditions Bold. Bonne écoute.
Si un mec dans la rue met une main au cul, est-ce que tu l'as déjà fait ?
Celle qui ose.
Je m'appelle Violaine, j'ai 33 ans. Je suis née dans les années 90 à Paris. Et j'étais une petite fille assez solaire apparemment, d'après ce qu'en disent mes parents. Assez extravertie et qui s'exprimait beaucoup à travers le dessin. Toute petite, j'ai dessiné, peut-être par mimétisme, parce que mon père dessinait aussi un petit peu. Il faisait de la photo. Petit à petit, je me suis créé un univers. Toute mon adolescence, je dessinais très souvent. Et j'essayais, je tentais malgré tout d'être bonne à l'école, même s'il me fallait beaucoup travailler pour que ça fournisse des résultats. Après, rapidement, vers 15 ans, un petit peu poussée par ma prof d'art plastique de l'époque, elle m'a fortement suggéré de faire une école d'art. Et j'ai opté pour faire un bac STIR appliqué, donc ça s'appelait comme ça à l'époque. C'est un bac technologique en art appliqué. Donc je suis rentrée dans cette formation avec le rêve de devenir peut-être animatrice 3D et rentrer surtout intégrer l'école des Gobelins. Et j'ai intégré finalement l'école Boulle à Paris en sculpture sur bois parce que j'avais vraiment besoin de me confronter à la matière et j'étais persuadée qu'en travaillant la 3D, j'allais devenir une meilleure dessinatrice. Je me sentais pas légitime de tenter le concours des Gobelins. J'avais été voir et je trouvais ça beaucoup trop dur à franchir et du coup, j'ai renoncé. Le syndrome de l'imposteur, je sais pas, j'étais persuadée que je dessinais pas hyper bien. Clairement, j'ai manqué d'audace parce que par le manque de confiance en moi, je me suis fermée toute seule mes portes, sans avoir même tenté d'obtenir quoi que ce soit. À partir de l'école Boulle, tout a basculé dans ma vie, j'ai cherché un peu le sens, je me suis posé plein de questions, j'étais perdue. Je pense que c'est un peu comme quand on a beaucoup d'attentes sur quelque chose et qu'on est hyper déçu tellement on a attendu très rapidement, j'ai à peine terminé l'année. Et je me suis orientée vers un BTS technico-commercial dans le Jura. Donc, n'importe quoi, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment surtout besoin d'une structure et d'un cadre. Il fallait que je fasse autre chose. Et comme j'aimais le matériau bois et que j'avais des capacités de communication et commerciale, j'ai fait l'association des deux et pouf, je me suis retrouvée dans le Jura. Et j'ai fini par me dire, en fait, qu'est-ce que tu fais, Violaine, là ? Tu t'éloignes de ton projet initial. Toujours pareil, je ziotais chaque année les dates de concours des Gobelins sans avoir le courage de m'inscrire. À 26 ans, j'ai réalisé que c'était trop tard et que je ne pourrais plus jamais intégrer les Gobelins. Grande tristesse de ma vie. Et puis, j'ai passé le concours de l'ESAT à Roubaix dans le Nord et je suis rentrée, j'ai intégré cette école d'art pour faire un BTS design de produits. J'ai obtenu le BTS comme il fallait. Et après, j'ai fait 10 années de travail à la fois dans le tertiaire, donc beaucoup en banque, dans des bureaux. Et je voulais absolument continuer malgré tout. Donc le week-end, les soirs, et ben je faisais des dessins et particulièrement des livres pour enfants. Je trouve que c'est un formidable terrain de jeu de pouvoir émerveiller des enfants. Je trouve que les adultes, on perd beaucoup notre capacité d'émerveillement et c'est dommage. Et ça m'allait très bien jusqu'à ce que je découvre que même sur mes périodes de pause en banque, je dessinais. Je voyais bien que c'était quand même quelque chose que je lâchais pas. Mais c'était presque vital parce qu'à l'époque, le travail prenait de plus en plus de place. Je me disais, mais comment font les gens qui font ça toute leur vie ? Pour moi, être audacieux, c'était prendre des risques et dans une période où je trouvais qu'on ne pouvait pas vraiment en prendre. Donc en fait, en me faisant des nœuds toute seule au cerveau, je me suis coupé l'herbe sous pied avant même d'essayer. Et du coup, ça a généré beaucoup de tristesse chez moi et beaucoup de frustration. Et après, j'ai rencontré un amoureux, on a fait un bébé, tout est allé très vite. Et je me suis dit, mince, là, je suis responsable d'un petit être, il faut que j'assure, il faut que j'assure. Et puis pour une fois, il faut que je grandisse, il faut que j'arrête de dessiner des petits dessins partout, là. T'as 27 ans, ma louloute, maintenant, faut que tu remplisses le livret A de ton gosse. Je crois que j'ai voulu devenir grande et rentrer dans une case. J'ai pas vraiment cru en ce projet. Je savais que en choisissant la carrière artistique, il fallait non seulement avoir du talent, mais aussi de la persévérance, une grosse confiance en soi pour défendre ses projets, défendre son truc. Et puis c'était un peu comme les castings d'acteurs. Ceux qui y arrivent, c'est pas nécessairement ceux qui ont le plus de talent, mais c'est aussi le concours de circonstances, la chance, etc. Et moi, j'ai ni provoqué la chance, ni cherché à la voir. Et j'ai complètement laissé le dessin, l'art de côté, amèrement. Et je me suis dit, voilà, on va rester sur la banque. J'ai commencé à me sentir dépassée. Et l'année 2019 a commencé très mal. J'étais tout le temps malade, mais réellement. Pour un rien, un rhume, une gastro, machin, ça n'arrêtait pas. Et en fait, j'enchaîne les maladies. Et le 14 février, je me sens pas bien, état grippal. Je laisse passer plusieurs jours, j'appelle mon médecin pour l'arrêt de travail. On se voit pas finalement, donc je ne vois aucun médecin. De toute façon, je suis incapable de sortir de chez moi. Je suis clouée au lit et je ne fais que vomir. Et j'ai extrêmement mal dans la tête, j'ai des vertiges, j'ai mal dans les yeux. Et au bout d'une dizaine de jours, on prend quand même tous un peu conscience que là, ça devient chaotique. Je ne tiens plus debout, je hurle de douleur, j'ai très mal, j'ai des fourmillements, j'ai l'impression que mes dents se déchaussent et je commence presque à suffoquer, à avoir énormément de mal à trouver ma respiration. Et je vais une première fois aux urgences et je tombe sur une infirmière qui me dit « Non, non, mais... vous avez la grippe, rentrez chez vous. Là, vous êtes juste très fatiguée, c'est pour ça que vous tombez chez vous. » Et donc moi, qui ai très peur des hôpitaux, je me contente largement de son diagnostic à vue d'œil et je m'en vais. Tout ne va pas bien aller puisque le lendemain, c'est encore pire. Ce matin-là, on doit être autour du 20 février, je décide d'appeler le SAMU parce que je suis incapable de me rendre à l'hôpital. Et même moi, à l'intérieur de moi, je me dis... si je fais rien, je crois que je vais crever. Je reviens une deuxième fois à l'hôpital. Du coup, j'attends 6 heures aux urgences de l'hôpital, en fait, jusqu'à ce qu'un jeune interne m'ausculte et il découvre très rapidement que je n'ai plus de réflexe. Donc là, il me demande la confirmation du diagnostic à une autre médecin qui lui dit on la monte en neuro immédiatement. De là, je ne comprends toujours pas le rapport entre ce qui m'arrive et la neuro. Et en neuro, on me fait un EMG, donc un électromyogramme. C'est concrètement un examen avec un neurologue où on plante des petites piqûres dans les nerfs et on envoie de l'électricité, enfin des décharges électriques. Et si on sent rien, ça va pas, ça sent mauvais. Et donc moi, j'ai eu un EMG assez radical et assez direct puisqu'on m'a très rapidement dit « Vous avez un syndrome de Guillain-Barré ». Donc comme je ne sais pas ce que c'est, je demande simplement si ça se soigne. On me répond oui, mais va falloir être patiente. À ce moment-là, le mot patience, en fait, j'en prends pas du tout conscience. Pourtant, il va me suivre toute ma rééducation, mais on va me le répéter ce mot. Il va falloir être patiente, il va falloir être patiente. On a dû me répéter, mais des dizaines et des dizaines de fois en rééducation et à l'hôpital. Mais à ce moment-là, c'est la première fois qu'on me le dit et je me dis, ok, mais patiente, ça veut dire on me donne un médicament et demain, c'est fini, quoi. À ce moment-là, le neurologue m'explique très brièvement ce que j'ai, sans m'inquiéter. Il me dit juste, madame, vous allez vous paralyser petit à petit, de plus en plus, pour une durée indéterminée. Mais vous ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous allez pouvoir tout récupérer, votre vie va redevenir comme avant. Mais d'abord, vous allez passer un petit temps en réanimation. Mais moi, à ce moment-là, je ne comprends pas le rapport vraiment entre ce syndrome et la réanimation. Je commence à sincèrement avoir énormément de mal à trouver mon air. Je commence à m'affoler. Une médecin me caresse les cheveux pendant qu'on m'endort et me dit « tout va bien se passer, il va falloir être patiente » et je m'endors sur ces mots. Et quand je me réveille, j'ai deux tubes dans la bouche, je suis dans une chambre sans fenêtre. Je vois que mes tuyaux sont reliés à une machine, je comprends très vite que c'est cette machine qui me permet de respirer. Et là, je me rends compte que ce syndrome, c'est pas une grippe, c'est quelque chose de très grave. Et ce passage en réa va être peut-être un petit peu plus long que ce que j'avais imaginé. Les jours suivants, on m'explique que mon système immunitaire s'est attaqué lui-même à mon corps, à cette myéline, la gaine qui entoure les nerfs, mais aussi à certains nerfs, donc j'ai aussi une atteinte axonale. Le Guillain-Barré a commencé par les pieds, et il va remonter de plus en plus jusqu'à la tête. J'ai été intubée sur épuisement respiratoire. En fait, je vais devoir rester éveillée et consciente de mon état parce que les médecins ont besoin de savoir jusqu'où je vais me paralyser, jusqu'où va aller la maladie. Je vois que l'incendie dans mon corps, il va très vite. On a l'impression qu'on nous scie les jambes vivantes et les membres. C'est des vagues de douleurs permanentes qu'il faut affronter comme des contractions, mais en puissance 1000. Et donc, du coup, on me donne énormément de calmants. Ces mêmes calmants qui me font à la fois avoir des hallucinations, des chaleurs extrêmes. Je suis constamment nue. Je supporte même pas un drap sur mon corps. Je demande d'avoir un ventilateur en permanence orienté vers moi pour avoir de l'air. J'ai l'impression que je suis dans un désert aride, j'ai tout le temps la bouche sèche parce que je suis intubée. Rapidement, on me propose une trachéotomie. Donc c'est un trou dans la fourchette sternale qui permet du coup d'être un petit peu plus confortable, de ne pas avoir la bouche constamment ouverte. C'est extrêmement douloureux parce que les tubes de trachéotomie, il y en a deux, ils sont lourds. Et le collier serre, l'orifice fait mal. Pendant qu'on m'a posé la trachéotomie, j'ai fait un pneumothorax. Il y a toujours, à chaque fois, une complication supplémentaire. Les traitements antidouleurs qui donnent les nausées. Le frésubin, donc c'est les poches d'aliments qui écœurent en permanence. Je suis toujours dans l'inconfort. Il n'y a aucune position qui me soulage. La seule chose qui me soulage, alors c'est à la fois les visites de mes proches qui vont être d'un courage exemplaire parce qu'ils vont tous mettre leur vie à l'arrêt. Ma mère va se mettre en arrêt, mon conjoint également. Il y a tout un monde qui s'organise pour prévenir mon employeur, pour prévenir tout un tas de gens, pour s'occuper de la crèche de Lucas, de mon fils. Enfin, c'est un marasme sans nom. Je suis partie en fait du jour au lendemain et du coup, bah, toute la vie doit se réorganiser comme ça. Et puis moi, je demande à avoir constamment quelqu'un près de moi. Parce que j'ai peur, je suis terrorisée, j'ai absolument aucun courage. Si je pouvais, j'arracherais tout, je me barrerais clairement. Mais à ce moment-là, j'en ai pas les capacités physiques. Et à ce moment-là, je trouve que je n'ai absolument aucun mental. Je suis juste à la fois sidérée, totalement paralysée de douleur, totalement paralysée par la peur. Je me demande jusqu'où va aller cette paralysie. Quand le cauchemar va se terminer, je me demande même si je ne suis pas en train de faire un cauchemar d'ailleurs. Je me pose même la question, est-ce que c'est vraiment réel tout ce qui se passe? Et ce qui me rend les choses très réelles, c'est que les proches viennent me voir tous les jours, me parlent de mon quotidien, me parlent de Lucas. Ils me collent des photos qu'on va appeler le mur de la motivation pour que je puisse garder l'espoir, en fait, et me rappeler les bons moments de ma vie d'avant. Du coup, c'est assez fou, en fait, de dire que la vie bascule comme ça, presque du jour au lendemain, et qu'un corps qui se paralyse le fait dans la douleur, mais très très vite. Moi qui n'aimais pas les hôpitaux, je suis servie. Et en plus, je trouve ma chambre absolument abominable, j'ai aucune vue sur l'extérieur, je me dis, mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans un caveau en permanence. Ne pas voir la lumière du jour, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup. Je demande à ma mère d'ailleurs de me tuer. Je lui ai dit « tue-moi avec mon œil » parce qu'en fait, j'ai plus qu'un œil qui bouge à ce moment-là. J'arrive à communiquer avec ce qu'on appelle un alphabet ézarin. C'est un alphabet où les lettres sont classées dans l'ordre que l'on utilise le plus. Et je cligne de l'œil pour valider les lettres. Le mot, du coup, autant dire pour créer un mot, c'est interminable, c'est épuisant. Je m'endors même des fois entre deux mots. Parce que en fait, j'ai besoin de récupérer, c'est épuisant. Ensuite vient la phase plateau, donc tous les Guillain-Barré. C'est une phase où on ne récupère pas, mais on ne perd plus. Et on sait que la maladie va arrêter l'incendie s'est arrêté. Et maintenant, on va rester un moment paralysé dans son corps. Donc là, c'est la période la plus momie que je connaisse. On me tourne, on me bouge pour les soins quotidiens, pour changer mes couches, parce qu'évidemment, je n'ai plus le contrôle des sphincters, pour me laver, pour me faire les soins de trachéotomie. Mes journées ne sont plus que des soins, protocoles, médicaux, qu'on me répète tous les jours. Je n'ai plus aucun plaisir. Au bout d'un moment, je me dis, si je suis là pour un moment, une durée indéterminée, autant arrêter de compter les jours parce que là, tu vas te faire du mal, clairement. Et dans ma tête, un peu comme quelqu'un en prison, je me fais des petits bâtons en me disant, bon, allez, ça y est, la matinée, c'est passé, check. L'après-midi, c'est bon, check. Et ce qui est cool et ce qui ponctue vraiment de manière top mes journées, et c'est vraiment le seul moment de plaisir que j'ai, c'est de voir mon kiné, en plus de mes proches, mais de voir mon kiné parce que mon kiné, il me mobilise 3 heures en moyenne par jour, ce qui est énorme. Il me mobilise passivement. Et ça, c'est essentiel parce qu'un corps n'est pas fait pour rester inerte. Sinon, il s'enraidit. Et s'il s'enraidit, ça peut être définitif. Donc, on me les mobilise de manière passive. Et pendant ce temps-là, il me raconte sa vie, ses enfants. Ça me fait énormément de bien. J'adore écouter les potins de l'hôpital, les potins tout court d'ailleurs. J'ai besoin de rêver en fait. J'adore vraiment les visites de mon kiné. Et le week-end, il prend des week-ends, ce brave monsieur, il a bien besoin de repos. Mais ça, j'aime pas du tout. Et du coup, je demande à mes proches de faire la même chose. Et je pense que je les ai épuisés à me mobiliser passivement pendant des heures sur les bras, les jambes. Parce que du coup, pour moi, c'est quand ça s'arrête, c'est une horreur. Mais quand ils le font, j'ai une pause dans les douleurs. Et ça, c'est extraordinaire. Je sens quand on me touche. Je sens quand on me pose la main sur le bras, je sens tout ça. En revanche, moi, je suis plus capable de bouger, donc de moi-même. Dans ma tête, mon fils, j'étais obsédée. Les premiers jours où je suis rentrée en réanimation, j'étais obsédée par le fait que j'avais pas pu lui dire au revoir, que je ne l'avais pas vu le matin où j'étais partie. Et j'étais extrêmement en colère de ne pas avoir pu lui expliquer ce qui m'arrivait avec mes mots. Et de lui dire de vive voix. Donc c'était, j'avais l'impression d'avoir déserté la maison, d'être partie comme une voleuse, de ne pas pouvoir lui avoir dit au revoir, ça me déchirait le cœur. Et quand on me l'a ensuite amené, plusieurs semaines après, parce que la réanimation c'est quand même un espace très particulier et qui est normalement interdit aux enfants, les médecins avaient compris l'importance de la motivation dans mon parcours de guérison. Et du coup, ils ont accepté que je puisse voir mon fils. Et mon fils, ça a été extrêmement difficile de le voir parce que quand il rentrait dans les chambres, il ne m'a pas reconnue. Pour lui, j'étais un corps inerte, sans expression. Il voulait tirer sur les tubes, mais il cherchait sa maman. Il ne savait pas où était sa maman et pourquoi on l'emmenait là. parce qu'en plus il avait le droit de rien toucher. Il avait 2 ans, il avait juste envie, il venait juste d'apprendre à marcher, il avait juste envie de parcourir le monde, la chambre, et tout toucher. Et dans une chambre de Réa, on peut rien toucher. Donc concrètement, c'était pas un espace pour lui. Le voir, voir sa petite tête, ses petites boucles blondes, pas pouvoir toucher ses cheveux, pas pouvoir lui faire un bisou, c'était terrible. Le voir me faisait presque plus de mal que de bien. Et c'est paradoxal parce que ça me remplissait de joie de le voir, de savoir qu'il allait venir, mais ça me dévastait de l'intérieur quand il repartait, parce que je me disais, mais en fait, j'ai perdu mon fils, enfin, il ne me reconnaît pas, il va oublier sa maman peut-être. J'étais vraiment très très mal vis-à-vis de ça, et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi. Rentrer chez moi pour redormir avec mon bébé et lui faire plein de bisous et de pouvoir le reprendre dans mes bras et de le porter. Et ça, j'ai pu le faire que 9 mois après. Je l'ai vu en rééducation, etc., mais beaucoup en fauteuil. Donc oui, j'ai pu l'avoir un petit peu sur les genoux, mais il ne voulait pas forcément rester dans le fauteuil. Et puis après, j'ai mis vraiment du temps à pouvoir le reprendre dans mes bras, le serrer avec toute la force dont je disposais. Mais par contre, je n'ai jamais pu le reporter debout dans mes bras. Donc pour moi, en fait, oui, j'ai arrêté de porter mon fils à 2 ans. Un jour, je retrouve espoir malgré tout. Ça doit être un jour à peu près fin avril. Fin avril, je commence à bouger mon pouce. Et ça, je m'en rappellerai toujours parce qu'on l'a vraiment fêté comme une victoire. Au début, on n'était que le kiné et moi à y croire. Et puis, le médecin a confirmé plus tard, oui, oui, elle est en train de sortir de la phase plateau. Alléluia, vraiment, là, j'étais stupéfaite parce que j'ai vraiment eu de l'enthousiasme de toute l'équipe soignante, qui ont été d'une bienveillance d'ailleurs incroyable sur toute la partie réanimation et même après. J'ai commencé à retrouver espoir à partir de ce moment-là. Je savais que rien n'était gagné, mais si j'avais de la volonté, j'étais persuadée que j'allais tout récupérer, que ma vie allait j'allais reprendre ma vie comme avant. Donc, ça m'a permise énormément d'encaisser les douleurs. Les douleurs qui sont nombreuses quand on a été longtemps alité, on a perdu un peu le centre de gravité. Donc quand on nous remet debout en verticale, c'est un effort colossal. Il y a des vertiges, vomissements, on est incapable de se remettre à la verticale. Et donc du coup, on me sangle sur mon lit d'hôpital, sur des tables de verticalisation pour pouvoir me réadapter à tout ça. Donc c'est tout un parcours de rééducation qui commence, mais qui est plein d'espoir pour moi. En plus, je suis entourée vraiment de kinés ultra bienveillants, ultra solaires, ultra optimistes. Donc je ne peux pas être négative en fait, c'est impossible. Je pense que l'entourage y fait pour beaucoup. Et rapidement, en fait, je récupère. C'est vrai que le premier objectif qu'on m'a donné quand j'ai commencé à récupérer, c'est qu'il va falloir, pour sortir des chambres de réanimation, il faut être capable de respirer tout seul. C'est la première chose, avant tout, avant les sphincters, avant la nourriture, avant tout ça. Il faut enlever la trachéotomie et être capable de respirer seul. Donc ça, c'est un long processus. Moi, je pensais concrètement qu'on enlevait le bouchon et hop, c'était fini. Eh bien, non. non, j'étais carrément à côté de la plaque. Il faut se sevrer par petit peu. Et c'est ça qui est très difficile parce que je pensais pas devoir réapprendre même à respirer. Donc petit à petit, je mets plusieurs semaines malgré tout. Et puis un jour, on décide voilà, que je suis prête. Je suis morte de trouille. J'ai carrément peur de me séparer de cette machine. C'est assez dingue. Mais finalement, en fait, j'y suis arrivée. Et ça, c'est c'est comme quand on apprend à faire du vélo, hein, on est, faut se lancer. Bon, bah, la respiration, c'est pareil, quoi. Quand j'ai pu reparler, enlever cette trachéotomie, les premiers mots que j'ai dit, c'est « je t'aime » à mon conjoint de l'époque, qui s'appelle Sébastien. Et je lui ai dit « je t'aime » parce qu'il est resté tous les jours en réanimation. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'il n'a jamais pleuré devant moi, ne s'est jamais plaint, a toujours été d'une humeur extrêmement constante. Presque bizarre du coup, parce qu'on pourrait penser que c'est un manque d'amour, etc. vis-à-vis de moi, mais pas du tout, c'était vraiment sa manière à lui d'être fort. Il pleurait en fermant la porte, mais ça je ne l'ai jamais su. Devant moi, c'était toujours une stature cool, posée, comme si on était tous les deux dans le canapé et qu'on regardait rien d'ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas regarder la télé, mais on regardait rien et il me racontait pas grand chose non plus, parce que c'est pas un grand bavard, mais il avait le mérite au moins d'être à côté. Ça, je lui ai remercié et il le sait, et j'aurai une reconnaissance éternelle vis-à-vis de cette attitude, parce que je pense que c'est pas évident de voir sa femme d'un coup scopée de partout, branchée de partout, qui va pas très bien, qui a aucune expression sur le visage. Donc tout ça fait que j'ai dit je t'aime, ce sont les premiers mots que j'ai dit à mon conjoint. Donc, à partir du mois de mai, je peux rentrer. J'ai une place, on me trouve une place en rééducation. Quand j'arrive, ça ressemble très fortement à un hôpital, voire pire, parce que je vois des gens qui sont vraiment abîmés, cassés, des amputés. Enfin, c'est terrible, ça sent la soupe. Pour moi, le centre, c'était quand même un peu plus. Un peu moins médical et un peu moins moche. En fait, c'était tout aussi moche. Les gens sont aussi en blouse, il y a des médecins, enfin rien ne change quoi. Donc je suis très très déçue, et moi j'ai surtout envie qu'on me foute la paix. Eh bien non, on me dit rapidement, en fait t'es en centre de rééducation, la myéline se reconstruit très rapidement dans les 3 mois, donc il faut que tu fournisses un maximum d'efforts très vite, parce que c'est une course contre la montre, et puis tout ce que tu vas pouvoir récupérer dans la première année, c'est vital, c'est essentiel, c'est maintenant que tu dois faire les efforts. Donc, ancienne sportive que je suis, quand on me dit il faut faire des efforts, mais ça va payer, no pain, no gain, ok, j'y vais. Donc, il faut que j'adopte le fauteuil électrique, enfin les fauteuils roulants, tout ça, j'ai pas du tout envie. J'ai un rejet total de ce machin-là, le fauteuil électrique, j'en veux pas. Parce que pour moi, ça fait vraiment tétraplégique. Et moi, je ne suis pas une tétraplégique. Donc, au début, ça ne m'amusait pas du tout. Puis après, j'en ai pas mal rigolé. Mais j'avais vraiment du mal à rester en ligne de droite. Les garages, on n'en parle même pas. La marche arrière, c'était cata. Enfin, voilà. Je rencontre aussi ma kiné. Je regrette amèrement mon kiné Guillaume. Je rencontre Mireille, qui de prime abord n'est pas très sympa. En fait, c'est un amour de dame, mais... Mais sur au premier abord, elle est assez froide et elle est surtout très factuelle. Et elle me dit, Violaine, tu as eu un SGB très grave, très sévère. C'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire, ton SGB a été très sévère. Il est possible que tu ne récupères pas tout. Tu vas certainement avoir des séquelles. C'est la première fois qu'on me le dit. Et moi qui m'accrochais beaucoup à... Tout va bien aller, tu vas tout récupérer et tu vas récupérer ta vie d'avant, tu vas recourir, remarcher. Là, c'est un parpaing quoi, que je me prends dans la tête. Il va me falloir plusieurs jours pour digérer cette nouvelle, pour l'accepter. Et puis finalement, je ne l'accepte pas et j'utilise toute cette colère pour dire « Ok, vous croyez vraiment que je ne vais pas tout récupérer, mais moi, je vais vous prouver ». Que je vais tout récupérer. Et vous allez voir que moi, je m'appelle Violaine et que Violaine, elle n'abandonne pas. Et que là, je vais remarcher, je vais sortir de ce fauteuil. Et armée de toute cette colère, eh bien, finalement, je fais des progrès fulgurants en rééducation. J'ai un programme extrêmement dense. Un centre de rééducation, c'est un emploi du temps de ministre. J'enchaîne l'ergothérapie, l'orthophonie, les séances de balnéo, les séances d'activité physique adaptée et la kinésithérapie sur plateau. Le soir, je m'écroule dans mon lit à 21h, je suis épuisée, mais je suis radieuse parce que tous les jours je progresse, tous les jours je sais faire un truc de plus, tous les jours c'est moins difficile. Alors oui, ça fait mal, Oui, tu as des crampes, mais incroyables. Mais ce qui est génial, c'est que je retrouve quand même la sensation d'avoir à nouveau une activité physique dirigée sur mon corps, que je le réapprivoise, qu'il a envie de refonctionner, que je suis maîtresse un peu de mon destin et que ça va bien se passer. Et au centre de rééducation, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'au début, je ne voulais pas du tout côtoyer les personnes avec moi. Et puis rapidement, on m'a placée à la cantine à côté d'autres jeunes du centre qui passaient, qui allaient passer aussi tout l'été comme moi en centre de rééducation. Et ces fameux copains avec qui je mange à la cantine vont être un super pilier pour moi. Ça va être des piliers pour moi parce que c'est des jeunes qui, comme moi, ont eu un accident de vie dramatique. On a tous des pathos différentes, mais on décide tous de prendre les choses avec beaucoup de... Alors, je dirais pas de philosophie, mais beaucoup d'humour et d'autodérision, de façon à accepter un tout petit peu plus notre état, de façon à accepter l'inacceptable finalement, et d'essayer de se donner du courage. Et en fait, on s'encourage les uns avec les autres, on se motive, on se félicite, on rigole, on fait plein de trucs. J'ai l'impression d'être en colonie de vacances. Comme on est tous un peu cassés, on n'a pas vraiment la conscience qu'on est malade, qu'on a des séquelles d'un truc. On est tous un peu au même niveau. Et puis, il faut savoir que le centre de rééducation, c'est quand même un espace hyper adapté à nos problèmes. Tout est accessible en fauteuil. Tout est assez simple. Et je m'en rendrai compte bien après, quand je rentrerai à la maison et après dans la vraie vie. Là, c'est pas la même chose, quoi. Les obstacles sont bien plus nombreux. Le monde n'est pas très adapté, finalement. Et on s'en rend compte de manière assez brutale. Celle qui ose. Je sors du centre de rééducation, je marche en canne. Je peux rentrer chez moi à partir de mars 2020. Quand je reviens chez moi, tout me paraît différent. Je me sens étrangère dans ma propre vie. Je ne retrouve pas mon quotidien. Je ne retrouve pas Ouais, non, j'ai l'impression de ne pas retrouver ma vie. J'ai changé. J'ai énormément changé, en fait. Physiquement comme mentalement. Physiquement, je ne me reconnais plus dans le miroir. Et mentalement, j'ai l'impression qu'une éternité s'est écoulée. Je suis ravie de retourner chez moi, sauf que je n'y attendais pas, mais le monde fait face à une épidémie mondiale de Covid-19. Là, finalement, je retrouve ma liberté en rentrant chez moi et hop, on me l'enlève à nouveau en me disant « tu peux plus sortir ». Bon, moi, je le vis plutôt bien parce que j'ai un balcon. Parce que je vais passer toute ma période de Covid en autarcie avec mon fils, que c'est absolument exceptionnel pour se retrouver, on se réapprivoise, on recrée du lien, j'arrive à lui expliquer chaque jour un petit peu ce qui s'est passé, de façon à ce que les choses se fassent en douceur et qu'il comprenne que jamais, mais jamais je ne l'ai abandonné. On joue aussi beaucoup avec mon fauteuil roulant, il l'appelle sa voiture. Et puis dans ses yeux, dans son regard, je me dis, mais je peux pas, il faut qu'il soit fier de moi, quoi. Il faut que sa maman, ça soit pas juste une handicapée qui a pas eu de chance, une femme qui va s'apitoyer sur son sort. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que tu te battes, que tu essaies de t'insérer dans le monde valide. Coûte que coûte, il faut vite que tu reprennes une activité professionnelle. Et que tu retrouves un sens, un cadre, une structure de vie un peu plus normale, parce que c'est vrai que j'ai conscience que je suis complètement à côté de mes pompes. Et je me dis, voilà, recentre-toi sur vraiment ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes ? Moi, j'aime écrire et j'aime dessiner. Dans la vie, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en gagnant de l'argent de manière relativement stable et pérenne ? Et un peu par hasard, grâce à ma sœur, j'ai été voir un métier qui s'appelle rédactrice ou rédacteur web. un métier que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas qu'on pouvait être payé à rédiger des textes optimisés pour le web. Et je suis tombée sur des vidéos YouTube de Lucie Rondelet, qui est formatrice en rédaction web, qui est aussi consultante en stratégie digitale et qui, vivant à Nouméa, postait des vidéos hyper paradisiaques de la rédac web et j'avais l'impression que cette nana, au bout du monde, me parlait sur mon balcon et me parlait comme une sœur, comme une copine et parlait avec une grande... à la fois passion et simplicité d'un métier nouveau.
Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation-rédaction-web.com et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de mon parcours avant de devenir rédactrice web. Et pour ça, j'ai décidé de me mettre au pied d'un houppe, une espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie. C'est un très très bel arbre. Alors donc, en ce qui concerne mon parcours...
Tu pouvais travailler de chez toi ou d'ailleurs, il y avait une grosse flexibilité horaire. Je me suis dit, donc en fait, ça veut dire que je pourrais travailler sans qu'on me voie handicapée. C'est parfait, ça cochait toutes les cases. Et je me suis réorientée en rédaction web SEO grâce aux vidéos paradisiaques de Lucie, qui en plus avait l'air méga sympa.
Au blogging et à l'infoprenariat, au web entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'avoir commencé l'aventure de la rédaction web.
Et j'ai découvert après quelques mois de formation qu'en plus d'avoir l'air sympa, elle l'était. Et en fait, elle m'a appelée et elle m'a dit... J'ai vu un de tes articles, il y avait une image, tu l'as illustrée, j'adore, ça te dit qu'on travaille ensemble sur un média et l'aventure a commencé comme ça et je la remercie parce qu'elle m'a donné ma chance à distance sans ne s'être jamais vue. Elle m'a cru sur parole quand je lui ai dit que j'allais travailler bien et que j'allais mettre toute mon énergie là-dedans et en fait ça a été 3 années passionnantes parce qu'on a dressé le portrait d'une centaine de femmes, celle qui ose, c'est plus de 800 portraits. J'ai dessiné les traits de plus de 800 femmes que j'admire. Elle m'a refait ma culture générale et j'en suis ravie parce qu'il y avait beaucoup de boulot.
Pouvoir et savoir. Refaire sa vie à chaque matin.
Et du coup, j'y arrive et petit à petit, je commence à écrire et à dessiner tout ce qui m'est arrivé.
Je crois qu'il faut se brûler, il faut vivre, se reconquérir.
Parce que les femmes sont fortes.
Celles qui osent.
Ça fera l'objet d'un livre et j'ai décidé plus tard de faire en fait de l'éditer. Mais dans les premiers temps, quand j'ai écrit et illustré, c'était surtout pour ne rien oublier, tout restituer à mon fils et puis... vidanger tout ce que j'avais, toute ma colère, mes émotions, c'était pour moi la meilleure des thérapies. Ça m'a beaucoup aidée dans le processus d'acceptation. Je pense que je ne serais pas aussi positive si je n'avais pas eu le dessin. Le dessin a été ma thérapie. Ce qui m'a donné l'audace de faire publier ce témoignage et finalement ce récit très personnel et très, en fait, très brut. Ce qui m'a donné l'envie de le faire et de franchir le pas, c'est à la fois les gens qui l'ont lu et qui m'ont dit « Non mais Violaine, ton récit, il est quand même très poignant, très percutant, ça pourrait donner de l'énergie aux autres, fais-le. » Et puis la deuxième chose, enfin le point déclencheur, ça a été une interview avec Clémence Bélanger qui a sorti un livre qui s'appelle « Née comme ça ». Et Clémence, en fait, c'est une jeune femme qui avait mon âge, mais qui a une maladie complètement différente à la mienne. Elle est née avec un handicap. Et moi, j'avais trouvé très fort son témoignage de résilience, son autodérision aussi, sa force, ses faiblesses, enfin le fait de se raconter ses faiblesses, sa dépression, le fait qu'elle ait été à terre, le fait que tout soit pas si rose qu'elle n'a voulu le faire croire pendant longtemps. J'ai trouvé ça hyper encourageant et je me suis dit, pourquoi pas moi? Parce que mon histoire est singulière et parce que moi, quand j'étais en rééducation, j'ai pas trouvé de livre avec des femmes... qui d'un coup devenait handicapée, devait d'un coup rester dans un centre de rééducation pendant de longs mois et qui était maman, séparée de leur enfant. J'ai pas trouvé ce type d'histoire-là, malheureusement, ou heureusement, du coup. Et je me suis dit, je crois qu'il faut absolument que je témoigne de ça, quoi. Si ça pouvait inspirer ou en tout cas faire sourire au moins une heure le temps de la lecture du livre, j'avais gagné. C'est un récit féminin sur le handicap et sur le fait qu'à 30 ans, comment on fait pour accepter ou en tout cas se relever d'une maladie aussi brutale. Le fait d'avoir un Guillain Barré quand on est une femme, ça peut paraître anodin, mais un corps qui se paralyse, en réanimation, on a l'impression, en tant que femme, de ne plus l'être, de devenir un corps simplement qu'on tourne, qu'on bouge, qu'on manipule. En plus, on est toute nue, on est souvent habillée avec une kallax et on n'a pas de sous-vêtements pour des raisons pratiques. On ne peut pas toujours être habillée. Donc, toute la partie pudeur vis-à-vis des personnes soignants masculins, etc. Il faut vraiment être à l'aise avec son corps parce qu'on est vraiment vu et re-revu. J'ai vraiment pris beaucoup de recul avec la nudité, grâce au SGB ou avec ou à cause, je ne sais pas. Et puis plus tard, dans ma rééducation, j'ai toujours été quand même frappée par le fait qu'on ne me demande jamais si j'ai besoin d'une contraception. On m'a rarement posé la question à savoir si j'avais retrouvé mes règles ou pas. Et c'est quand même quelque chose qui est fou parce qu'effectivement, je n'ai plus eu mes règles pendant plus d'une année. Mais après, j'avais envie à nouveau d'avoir des rapports sexuels. Et pour eux, c'était comme s'il y avait une sorte d'omerta, alors qu'en fauteuil roulant et en centre de rééducation, j'estime qu'on peut retrouver une vie sexuelle épanouie. Je ne sais pas, il faut essayer. Et puis même, on ne m'a jamais posé la question, c'est moi qui l'ai posée. J'ai demandé, est-ce que je pourrais avoir à nouveau des enfants? Et quand on m'a répondu, on m'a dit, vous, avec tout ce que vous avez vécu, vous voulez encore vivre une grossesse. Et moi, je me suis dit, mais est-ce que si j'en avais l'envie, ça me concerne, je crois. Et on m'a répondu, oui, mais ça va être très compliqué, et puis foutez la paix à votre corps. À 30 ans, je trouvais presque quand même normal et légitime d'avoir envie de poser cette question. Est-ce que c'est terminé pour moi les enfants ou pas? Après, moi, j'ai effectivement la chance d'en avoir un, mais j'aurais aimé décider du nombre d'enfants que j'aurais eu envie d'avoir. Je vous laisse la vie m'orienter sur cette question, mais je pense pas. Donc aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 4 ans que j'ai eu le syndrome. J'ai conservé et je conserve d'importantes séquelles physiques et psychologiques un petit peu aussi. Je marche très difficilement à l'aide d'une canne. Je marche maximum maintenant 500 mètres, voire 1 km. Et le reste du temps, je suis en fauteuil roulant. En plus, à cela s'ajoute une fatigabilité importante. J'ai besoin de beaucoup plus de repos que les autres, de dormir beaucoup plus. J'ai encore beaucoup de médicaments contre les douleurs. Tous les ans, je fais un EMG, donc un électromyogramme, pour vérifier que mon corps récupère bien toute la myéline, tous les nerfs. Cet EMG est rarement très positif, mais un neurologue m'a très bien expliqué à l'hôpital d'Orléans qu'un EMG, c'est un état des lieux des nerfs. Effectivement, le diagnostic n'est pas bon. Dans mon cas, c'est un SGB très sévère, donc forcément, mes nerfs sont très faibles et à l'EMG, ils répondent de manière très faible avec des codes très très bas par rapport à la normalité. Mon seul espoir à l'avenir n'est pas de récupérer un EMG parfait. Les nerfs, ça prend beaucoup trop de temps. Il va me falloir jusqu'à la fin de ma vie pour que mon EMG redevienne normal, voire peut-être il ne reviendra jamais. En revanche, ma mobilité, elle dépend énormément de mes efforts et de ma rééducation. Si je n'entretiens pas ce que j'ai gagné, je vais le perdre beaucoup plus rapidement que quelqu'un de valide. On peut faire le parallèle avec des personnes âgées. Une personne âgée qui chute va mettre beaucoup plus de temps à récupérer d'un long moment sans mouvement que quelqu'un qui a du tonus musculaire et qui est en pleine forme. Mais le fait de faire de la rééducation, c'est un peu mon nouveau sport à moi. J'essaie de me créer des petits challenges et ça me crée aussi une forme de dopamine. Je pense que je peux rien dire à quelqu'un qui est dans la souffrance, à part qu'il est tout seul et qu'il va devoir convoquer chez lui ou chez elle une force énorme, mobiliser énormément d'énergie pour s'en sortir, parce que l'énergie, elle va venir de soi-même et pas des autres, et d'aucune parole, je crois. C'est vrai que je crois que personne à ce moment-là peut avoir les bons mots. Parce que de toute façon, le temps, il est interminable et tu ne peux pas y faire face. La seule façon d'interrompre le temps, c'est la mort. Et si tu ne peux pas te la donner, il faut trouver une autre solution. Et après, ce que je dirais à des gens qui ont des handicaps visibles ou non et qui se sentent très seuls et pas très compris, je leur conseillerais de trouver leur ikigai. Le sens de leur vie, leur passion, leur petite flamme de vie, et de l'arroser tous les jours et de faire un truc génial avec, de faire du beau. Je suis pas forcément une femme tout le temps courageuse, hein, et je suis pas toujours optimiste. Il y a des jours je pleure quand même comme un bébé, et même parfois je vous envie terriblement, et j'envie terriblement les gens qui courent, et j'ai des mauvaises pensées en me disant mais ah là là, pourquoi moi et pas elle, et voilà. Et donc je suis clairement pas un ange et clairement pas irréprochable surtout, mais peut-être que oui, j'ai eu à un moment donné l'audace de croire que mon livre allait pouvoir changer la vie de certaines femmes en rééducation. Et j'ai eu aussi l'audace de dire que je me sentais toujours à côté de la plaque dans la vie. Et maintenant, je suis à côté de la plaque, mais je sais pourquoi. Je suis handicapée. Et du coup, là, ça me fait presque du bien de me dire, en fait, voilà, c'était ça mon chemin de vie. Il fallait que je devienne handicapée pour trouver ma place. Donc, c'est assez paradoxal, mais je me sens très heureuse maintenant.
Cet épisode vous plaît ? N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et d'attribuer une note à la chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et c'est vraiment très important. Merci.
C'est grandir à l'intérieur.
Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre, se reconquérir.
Parce que les femmes sont fortes.
Celles qui osent.
Un mec dans la rue, mais lui, non, est-ce que tu l'as déjà fait ?